Cours, le premier morceau chroniqué par Monsieur Malik dans sa doublette du Malik. Pour le deuxième morceau,
il va falloir changer le titre. Hein,
parce ouais, que bah, c'est un peu redondant, c'est ce que vous me disiez en fait. Quoi.
Ouais. Non, je parle du titre de la chronique.
Des tours.
Non, de la chronique.
Ah oui,
la doublette du Malik, c'est pas.
D'accord. Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à construire un petit peu votre nom de chronique et peut-être qu'on avancera un petit peu dans la vie.
Ce sera pour la semaine prochaine.
Exactement. Suite au dance rock, j'ai beaucoup apprécié votre ce style que je ne connaissais pas, canadien. Eh bien, nous passons à une toute autre ambiance.
Figure incontournable des nuits et des ondes parisiennes, Gilbert, de son vrai nom Gilbert Cohen, pose les bases de son identité sonore au début des années 90 dans les studios de la Radio Nova en tant que programmateur musical. C'est l'époque charnière où il croise la route de Laurent Garnier, tandis que les jeunes Daft Punk commencent à graviter dans ce même cercle d'initiés. En 96, il passe à l'étape supérieure en fondant Versatile Records. En trois décennies d'existence, Versatile est devenu l'un des piliers les plus influents de l'électronique underground française, un label défricheur qui a vu défiler une sacrée liste de visionnaires, Judas Varsky, Étienne Jomet, Zombie Zombie ou encore Acid Arab. Pour célébrer ses 30 ans de défrichage sonore, Gilbert signe le 50e référence du catalogue avec un tout nouvel album, L'École de la Nuit. Paru en juin 2026, ce deuxième album solo est né d'un processus particulier initié lors de sa période amsterdamoise, puis entièrement déconstruit et rebâti à son retour à Paris. Le disque fonctionne comme une fresque panoramique. Il y croise les genres du rock à l'ambiant, du jazz aux expérimentations électroniques en s'entourant d'une constellation de musiciens invités. Une œuvre dense, pensée avant tout pour une écoute immersive du premier au dernier sillon. Parmi les sommets du disque, le titre Hamar, je ne sais pas comment on le dit, Hamar, apporte un souffle éminemment organique, emmené par la guitare et la voix du chanteur brésilien Alvaro Lancelotti. Cette escapade brésilienne, à la fois mélodique et percussive, vient aérer l'ensemble. Là où l'album explore des textures souvent synthétiques, ce morceau prend le temps de respirer et d'installer un superbe contrepoids acoustique, une vraie parenthèse solaire au cœur de l'École de la Nuit.
Eu andei chegar até e lá vi amar. Amar é ver a fé voltar. E andei chegar até achei a fé no mar, lá onde não dá pé dar. Lá de baixo socorro,
lá de baixo socorro.
No fundo fui me buscar.
Coração pra nadar,
no escuro quem mergulha encontrou.
Le DJ Gilbert avec le titre Hamar et le groupe de dance rock canadien La Sécurité avec le titre Détour, chroniqué avec brio par Monsieur Malik dans la doublette du Malik qui changera de nom de chronique la semaine prochaine, car oui, vous le retrouverez la semaine prochaine pour vous enseigner ce qu'est la bonne musique selon Malik. Tout de suite, eh bien, on va se plonger dans l'univers des centres sociaux grâce à Marie et Mathilde, tout ça c'est juste après ce jingle.
La Midina, l'émission du midi sur le mix des cultures, des news, de l'actu, des chroniques, de la bonne musique et de la bonne humeur. C'est de midi à 13h sur Radio HTR.
Et oui, on les connaît parfois de nom, mais sait-on vraiment ce qui se passe derrière les portes d'un centre social ? Ces lieux de proximité jouent pourtant un rôle essentiel dans la vie quotidienne de millions de Français. Ouverts à tous, les centres sociaux ne sont pas seulement des espaces d'accueil, ils accompagnent les familles, soutiennent les jeunes, proposent des activités culturelles, sportives ou éducatives, favorisent l'accès aux droits et créent du lien entre les habitants dans les quartiers comme dans les zones rurales. Ils sont souvent au cœur de la vie locale. Face aux défis sociaux, à l'isolement ou encore aux difficultés économiques, leur mission est plus que jamais d'accompagner les habitants et de renforcer la solidarité. Alors, comment fonctionnent ces structures ? Quelles sont leurs missions et pourquoi sont-elles devenues des acteurs incontournables de la cohésion sociale en France ? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec Mathilde et Marie, bien évidemment. Bonjour, rebonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, comme dit dans le sommaire, hein, vous travaillez justement à la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
Marie, vous, en tant que assistante de direction.
Oui.
Et Mathilde, en tant que chargée de mission.
Tout à fait.
Alors, justement, c'est bien de se renseigner, comme je l'ai fait un petit peu pour écrire mon lancement, un petit peu sur les internets. Mais est-ce que ce qui est écrit, justement, sur ces portails de renseignements sont véritables et véridiques ? On va, justement, un petit peu le savoir avec vous, hein, puisque, pour commencer, je vais vous demander qu'est-ce qu'un centre social, pardon.
On a plusieurs définitions. On a une définition officielle de la Fédération nationale où un centre social, c'est un foyer d'initiative porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels capables de définir et mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire. Une définition un peu lourde que nous, on a préféré remanié à notre façon en Seine-Maritime, où le centre social, c'est un peu comme une maison qui serait ouverte à tous les habitants d'un quartier ou d'un territoire, peu importe son âge, ses origines, ses moyens. Et on peut y passer pour plein de raisons, en fait, que ce soit pour chercher une information, un conseil sur la vie de tous les jours, faire garder son enfant, partir en sortie, visiter un musée, voir un spectacle, participer à des ateliers comme un atelier couture, un café partagé. Et l'avantage, c'est que les habitants et les employés du centre social, en fait, ils partagent leurs idées, leurs envies pour améliorer la vie du quartier ou du territoire. Et chacun peut s'impliquer dans les projets qu'on a envie de mettre en œuvre. Et on avance main dans la main, on améliore la vie de chaque habitant et on lutte contre l'injustice pour que tout le monde participe et trouve sa place.
Ah bah, c'est vraiment une très belle mission. Bon, en tout cas, on peut y faire beaucoup de choses. Pardon, excusez-moi, et voilà, c'est ma voix qui part. Ces missions, elles sont apparues quand, je veux dire, quand est-ce que sont apparus les premiers centres sociaux en France et pourquoi ?
Le premier centre social en France, il est apparu en 1896 à l'initiative de Marie Gaëry, où on a souhaité en fait transformer les œuvres de charité en œuvres sociales.
C'est-à-dire les œuvres de charité, c'est-à-dire
les œuvres de charité où on était plutôt là pour trouver prendre les gens qui connaissent la précarité en fait et les accompagner. Là, on était plutôt œuvres sociales. On réside avec les habitants et ensemble, on crée du lien pour au moins déjà se connaître et en plus mener des projets et améliorer la vie des habitants.
1896, alors cette initiative date quand même d'il y a un certain temps. Flore, vous avez une question ? Oui. Attendez, excusez-moi.
Disons qu'en fait, ça a toujours été, enfin, initialement pour une classe populaire.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et même une classe travailleuse aussi, à la base.
Ouais. Initialement. Et puis par la suite, pour les quartiers peut-être qui ont été créés, où il y a eu des problèmes peut-être d'incivilité, ou, etc., pour recréer comme ça une ambiance d'harmonie, occuper les jeunes, etc., non ?
Ça fait partie un peu des missions, mais alors occuper les jeunes, pas forcément dans le sens s'occuper, leur trouver une activité,
un petit peu comme une MJC, quoi.
Service.
C'est ça.
C'est plutôt mettre des projets en œuvre avec les jeunes parce que leurs besoins, en fait, on les entend pas forcément et on leur propose beaucoup d'activités où on consomme, mais en fait, ils ont plein d'idées et ils mettent plein de choses en œuvre pour justement qu'on puisse mener des projets ensemble. Ils ont leur mot à dire, en fait, les jeunes aussi.
Mais alors, justement, avant de revenir ça, à l'époque de la création, parce que la vie évolue avec le temps, avec la société, bien évidemment. Et quels étaient un petit peu les besoins, justement, à cette époque de la création en 1896 hein, vous nous avez dit que cela concernait évidemment les personnes en précarité, mais aussi les travailleurs. Et quelles étaient leurs réalités à cette époque-là et leurs besoins ? Cole.
Non, mais on peut s'imaginer que c'était des conditions de travail qui n'étaient pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça veut dire des batailles à mener pour conquérir des droits sociaux, des droits liés au travail. Donc forcément,
femme, aussi avoir une certaine liberté, une aide auprès des enfants.
Oui, peut-être. Après, je suis pas sûre que le droit des femmes à ce moment-là était vraiment très, très. Enfin, c'était pas la priorité, je pense, de ces structures. Mais en tout cas, sur les conditions, en tout cas, la bataille sur les conditions économiques, les conditions de travail, ça, c'était vraiment, je pense, les premières batailles et les premiers.
Les premières pierres, justement, qui sont apportées pour justement faire un petit peu de liaison avec les gens qui décident et faire en sorte que les travailleurs aient un petit peu plus de temps de vie et de facilité dans la vie pour pouvoir travailler, bien évidemment. Alors, par rapport à 1896, évidemment, les besoins ont évolué. Alors, quels sont aujourd'hui les besoins des personnes, justement, qui fréquentent ces centres sociaux ?
Les besoins des personnes ou plutôt quelles sont les missions aujourd'hui ?
Oui, quelles sont les principales missions, ouais, oui, voilà.
Parce que du coup, ça a évolué notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale avec la caisse d'allocation familiale et les caisses de mutualité sociale agricole.
Ah oui, parce que rappelez-nous, en fait, avant justement leur création, ça n'existait pas, en fait.
Les centres sociaux n'existaient pas du tout.
Oui, voilà, c'est ça.
Non.
Voilà.
C'était plutôt des œuvres sociales, en fait. On appelait ça pas encore un centre social, mais c'était des œuvres sociales. Donc là,
en fait, il n'y avait pas d'organisation pour cela, en fait, quoi.
Exactement.
C'était des personnes qui, au travers de certains territoires, proposaient justement de l'aide.
C'est exactement ça.
Mais sans être fédérées, sans être organisées. Et c'est ensuite, au travers et donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qu'on s'est dit, tiens, on va essayer d'organiser un petit peu toute cette solidarité.
C'est exactement ça.
Voilà, j'ai répondu à ma question. Oui, Flore, allez-y.
J'aimerais savoir quels sont les professionnels, en fait, qui participent aux centres sociaux, qui on peut trouver, solliciter là-bas.
Aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui.
Oui, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Qui travaille justement dans les centres sociaux ?
Alors, on a souvent une personne qui est dédiée. Alors, on peut avoir aussi des auxiliaires de puériculture qui s'occupent des crèches. Alors, vous avez le centre. Typiquement, le centre Étienne Pernet, qui a un multi-accueil crèche, où on peut retrouver des animateurs de périscolaires aussi, des auxiliaires de puériculture. On peut retrouver des travailleurs sociaux.
Alors, c'est quoi, justement, un travailleur social ?
J'ai pas la réponse, moi.
Ah, d'accord, ok.
On peut retrouver des travailleurs sociaux qui ont la fonction de, par exemple, référent de famille, qui s'occupent, en fait, justement, d'accompagner les familles.
Comme médiateur, un peu ?
Ça peut ressembler, je pense, que ça reste dans la même filière, dans le même secteur. On peut retrouver aussi des référents seniors. Nous, on n'en a pas beaucoup sur le territoire de Seine-Maritime et de Normandie, qui s'occupent plutôt du vieillissement en général, d'accompagner le vieillissement, d'accompagner l'autonomie. On a aussi des référents d'accès aux droits, parfois des médiateurs de santé. Et on a notre poste un peu pivot de directeur qui s'occupe de trouver les financements, de chapeauter l'équipe, de coordonner toute cette équipe, parce que ça se met en mouvement et il faut. Et on a aussi un poste primordial, c'est les bénévoles et quartiers et les habitants.
Bien évidemment. Et alors, justement, vous nous avez dit que lors de la création de ces centres sociaux, il y avait la participation donc des habitants à la vie du centre, au fonctionnement un petit peu. Est-ce qu'ils ont un rôle dans les décisions et dans les projets ?
Complètement. Et même plus que en fait de la participation, en fait les habitants, c'est vraiment, enfin c'est l'objectif des centres sociaux, c'est en fait d'agir collectivement. Donc en fait ils prennent complètement place dans la mise en place des projets en fait, parce qu'en fait on part des besoins des habitants pour mettre en place les projets. Donc en fait on peut entrer dans un centre social pour effectivement un premier accueil, pour participer à une activité, mais en fait l'objectif final c'est vraiment s'organiser collectivement pour répondre aux besoins des problématiques que peuvent rencontrer les habitants. Donc forcément, la place des habitants, elle est centrale. Et aussi parce que sur les centres sociaux, ils peuvent être donc de gestion associative. Et donc, ils peuvent être complètement, prendre leur place dans les conseils d'administration.
Ah oui, exactement. Un petit peu comme le centre Pernet, je crois, qui fonctionne de la sorte.
Exactement.
Oh, c'est fantastique. alors, on se rend compte effectivement que les territoires évoluent suivant les années. Il y a de plus en plus de monde sur un territoire. Sur d'autres territoires, il y en a moins. Particulièrement sur les Hauts-de-Rouen, je crois qu'il y a un renouvellement annuel d'habitants qui se fait très très bien. Et du coup, évidemment, des populations différentes qui arrivent sur ces territoires. Et certaines fois avec des besoins qui sont différents. Comment est-ce que, justement, est-ce que, en quoi le rôle est devenu encore plus important quels sont les nouveaux, les principaux défis, justement, par rapport à ces nouvelles populations ? Est-ce qu'il y a une évolution des besoins ? Est-ce qu'il y a une évolution des demandes ? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres défis pour les centres sociaux par rapport à la situation économique actuelle ? Ah oui, vaste question, vous avez 2 heures.
Est-ce que vous pouvez répéter la question différemment, s'il vous plaît ?
Oui, on va rester sur quels sont les principaux défis auxquels les centres sociaux sont confrontés aujourd'hui. Alors, parce que vous nous avez parlé que, évidemment, il faut aller rechercher des financements, par exemple. Est-ce que les équipes, en termes humaines, sont assez nombreuses pour répondre, justement, à toutes les sollicitations des habitants ? Un petit peu ces questions.
Tout à fait. En fait, effectivement, les centres sociaux, aujourd'hui, sont quand même confrontés à des difficultés financières. Parce qu'en fait, le fonctionnement, ce qui fait fonctionner les centres sociaux, c'est beaucoup des subventions. Donc les subventions de la CAF, mais aussi les subventions des collectivités territoriales. Et en fait, on voit bien, il n'y a pas que les centres sociaux, mais les associations en général voient leurs subventions diminuer. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, parce que du coup, on l'a dit, les centres sociaux, ils sont essentiels dans la vie des habitants, dans la vie des territoires. Et du coup, ça, c'est vraiment un enjeu très important, l'enjeu financier. Et aussi, on est aussi confronté à des injonctions de neutralité politique, où en fait, on nous fait... où on nous fait croire en fait qu'on ne peut pas se positionner dans la vie politique, alors qu'en fait c'est la politique, c'est la vie de tous les jours, en fait c'est comment on s'organise collectivement. Et parfois les associations et les centres sociaux sont confrontés en fait à des cette injonction à la neutralité politique. Et ça, c'est aussi un enjeu important.
Et oui, effectivement, puisque c'est comment être neutre lorsqu'on effectue ce genre d'emploi qui est tout sauf neutre, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Super. Merci pour toutes ces questions, Mathilde et Marie. Ah, une autre question de Madame Flore.
Oui, je voulais connaître les problématiques qu'est-ce qui est plus régulier, qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent de nos jours ? comme problématique auprès de la population? Quels sont les besoins, les demandes les plus récurrentes?
On a toujours l'isolement des familles, autant que l'isolement sur tout type de public. Les publics se trouvent souvent isolés, en fait, et c'est parfois la demande de lien, et c'est ce que permet les structures. On a une thématique un peu, c'est la mobilité, parce que qu'on soit en ruralité ou parfois sur un quartier politique de la ville comme les Hauts-de-Rouen, et ben la mobilité, elle est pas forcément évidente.
L'accès aux droits aussi, parce que en fait, on voit bien que de plus en plus de démarches, elles se font maintenant de manière dématérialisée, et en fait, c'est pas forcément évident pour tous et toutes, ne serait-ce que d'avoir le matériel pour se connecter, d'avoir l'aisance en informatique, enfin au numérique, et ça, c'est vrai que les centres sociaux permettent ça aussi.
Ah, vous proposez d'aider à compléter des dossiers, etc.
Et même matériellement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une borne, enfin un ordinateur accessible, une connexion internet, et quelqu'un qui peut effectivement être
ouais.
Tout à fait. Donc ça aussi, c'est des problématiques qui sont assez récurrentes dans le...
Ouais, c'est un enjeu, hein, parce que en 2026, on pense que tout le monde a un smartphone, donc une connexion, donc il est en capacité d'envoyer un mail. Eh ben non, des fois, on se rend compte que effectivement, les gens utilisent les réseaux sur leur téléphone, mais par contre, ne savent pas envoyer un mail avec une pièce jointe ou bien se connecter sur son espace France Travail. Tout ça, c'est une utilisation différente, et justement, les centres sociaux sont là aussi pour aider lors de ces démarches-là. Madame Flore, très bonne question, hein, franchement.
Oh, merci. Ça peut m'arriver.
Et donc, selon vous, alors, quelle va être pour l'année qui vient, cette saison 2026-2027, quelles sont un petit peu les projections avant les présidentielles? Est-ce que vous avez une latitude de penser que votre futur va s'améliorer, ou bien que la situation va se compliquer au fur et à mesure?
C'est plutôt incertain, moi, je dirais.
Ouais.
et tout dépend, en fait, parce que dans certaines situations, on peut penser que effectivement les centres sociaux seront soutenus, mais dans un autre contexte, les centres sociaux peuvent être fragilisés, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le fonctionnement de ces structures dépend de subventions. Et donc, en fait, un gouvernement décide de ne pas soutenir la vie associative et de ne pas subventionner, ça veut dire la fermeture de structures et...
Une catastrophe.
Oui. Exactement. Une catastrophe, parce que du coup, ce seront évidemment les travailleurs qui seront impactés, et évidemment
les habitants,
bien évidemment. Donc, tout ça pour rappeler qu'il faut quand même s'intéresser justement au vote lors des prochaines élections présidentielles qui peuvent déterminer la survie de nos camarades.
Nous qui votons.
Mathilde et Marie, justement. Et pour glisser, en tout cas, un bulletin de vote qui est dans votre sens, bien évidemment, et dans le sens des habitants qui sont des citoyens, qui sont installés et qui vivent avec nous. Merci beaucoup, Marie et Mathilde.
Merci pour l'invitation.
Assistante de direction et chargée de mission auprès de la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime. On y arrive. sans cacher, on va vous laisser retrouver vos bureaux qui sont au deuxième étage de cette tour
Alpha. Au premier,
vous êtes encore plus proche que je ne le pensais. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous a reçu, bien évidemment. Et on vous souhaite un très bel après-midi. Dans quelques minutes, bien évidemment, parce que l'après-midi commence à 13h. Voilà.
Merci.
Avec plaisir. Et tout de suite, on va repartir en musique avant de retrouver une petite page sportive avec justement le titre d'Ateyaba, Faith and Trust.
Sonner, ne refais pas l'étonner. fait frissonner. Hey, Léo fait pas l'étonne. Je rentre en moule à la banque. Tata snoppé pour avec un bonbon à la mode. Alibi en béton, armé comme un Vietcong. Une nouvelle tasse avec piercing sur le téton. Pharaon dans la maison, je ne donnerai pas raison. C'est l'Occident qui a déréglé les saisons. C'est l'Occident qui a pillé ma maison. C'est l'Occident qui va payer, y'a pas de raison. Pharaon dans la maison, je suis pas action mon business. Cette année ma poche fait du fitness. Sors les outils, sors les mitaines. La Vierge Marie aurait voulu que je casse l'hymen. La gars c'est énorme. Elle tombe à point nommé. T'as vu Dieu dans mes sonnets. Ne refais pas l'étonner. La lumière m'a diplômé. J'ai le soir qui picone. La double a fait frissonner.
You remember the story you told me about the father bull talking to the son? They're up on this hill, they're looking down at a bunch of cows.
Faith and Trust, un titre du rappeur français Ateyaba. Tiens, comme de par hasard, c'était sur le sample diffusé du premier morceau, interprété par Sunday, Where Did He Come From. Voilà, la boucle est bouclée. On est bien en 2026, il est midi 54 sur les ondes du mix des cultures. Et nous allons faire un peu de sport avec l'homme eh bien, qui aime... Ah bah oui, mais vous aimez l'homme qui aime parler à l'oreille des ballons. C'est tout de suite Monsieur Jean-Charles que nous retrouvons.
À mon top HDR en mouvement, l'instant sport et le sprint des scores. 1, 2, 3, 4. Top!
Et on termine cette émission avec notre chroniqueur sportif préféré. Bonjour JC, comment allez-vous? Alors quoi de neuf sur les terrains ce week-end?
Merci Nicolas, au programme très riche avec du baseball, du rugby, du foot et du Tour de France féminin. Je sais que vous aimez le vélo Nicolas.
Exactement, on va commencer par le baseball à Rouen avec les Huskies.
Exactement Nicolas, et attention, on parle bien du baseball. Les Huskies de Rouen ont sorti ce week-end leur premier match face à La Rochelle samedi dernier. Victoire nette des Huskies 17-14. Et c'est pas fini, le lendemain, rebelote.
Ah, parce qu'ils travaillent le dimanche aussi.
Samedi, dimanche.
Ah ouais.
C'est une grande journée, un grand week-end pour eux.
Et j'imagine qu'ils ont des récup durant la semaine, non?
Oui, mais le récup, c'est l'entraînement.
Ah, fantastique.
Alors, on revient, nous moutons. Dimanche, là, c'était vraiment très, très serré. Ouais. Quand même une victoire, 2-1 contre l'équipe de La Rochelle. Mais c'est pas fini.
Ah non.
Ce week-end, rebelote contre Montpellier.
Et samedi... c'est un déplacement ou non, c'est Montpellier qui vient?
Non, c'est Montpellier qui vient au stade Saint-Ex.
Oui, tout à fait.
Entrée gratuite. Si vous ne savez rien faire ce week-end, allez-y redécouvrir le
terrain de baseball qu'on appelait la planète hein, du côté de Saint-Exupéry pour ceux qui s'en rappellent. Vendredi, c'est aussi le retour des terrains, le retour sur les terrains pour le rugby et le football rouennais, non?
Oui, alors vendredi, grand vendredi de sport à Rouen avec le côté rugby, le RNR, Rouen Normandie Rugby, ont lancé leur pré-saison vendredi dernier avec un premier match amical de préparation. Car vous savez, ils ont des nouveaux joueurs qui sont